Les Chemins du Passé, association d'histoire basée à Saint-Symphorien-de-Lay, vous propose de partager des moments de notre histoire en essayant de la rendre vivante, même si la manière de les présenter parfois imaginée, faits et personnages sont véridiques. Micro-histoire présentée par Bruno Jacomy, Claude Janin et Bernard Charmillon.
Crash à Saint-Cerf-de-Valorge par Claude, Bruno et Bernard. Source, le site uneforgottenglory.org. Je vais vous raconter ce qui m'est arrivé l'autre jour à Fourneau. Devant chez moi s'arrête une voiture et une personne en descend. Il parlait en anglais. Vous connaissez, mon anglais est assez approximatif. Heureusement, un document à la main m'a été présenté. C'était la photo du monument en mémoire du bombardier tombé à Saint-Cerf-de-Valorge. Alors, dans la voiture se trouvaient deux couples d'Américains. Ayant des difficultés pour leur expliquer le chemin, j'ai pris ma voiture, je les ai conduits sur les lieux. Et vous avez sûrement connaissance de cet événement. Vous savez, dans la nuit du 27 au 28 avril 1944, à Saint-Cerf-de-Valorge, un B-24 Liberator du 389e groupe de bombardiers appartenant au 8e régiment de l'Air Force, basé à Harrington en Angleterre, s'écrase au sol en raison de son altitude trop basse. Le crash eut lieu à 2h10, heure locale, à 300 mètres du pont du Loup, sur la commune de Saint-Cerf-de-Valorge. Lors de l'opération de parachutage, au profit des maquis codés Laker 3, sur le terrain de Trimballe. Et voilà les circonstances.
Le bombardier B-24D, The Worry Bird, l'oiseau inquiet, s'est écrasé en tuant 5 membres d'équipage et seuls 3 aviateurs survécurent. Lorsqu'il a heurté le sol, le B-24 s'est divisé en 4 compartiments distincts. Les aviateurs de la première section furent tués. Les 3 aviateurs dans les 2 dernières sections ont survécu après avoir pu sauter et s'éloigner de l'avion pour se mettre en sécurité. Dans le pont d'envol se trouvait le pilote George W. Ambrose, le copilote Robert H. Redhair et le mécanicien Chuckle. L'avant, le nez de l'avion, était occupé par les lieutenants Arthur B. Pope, le navigateur, et Peter Rocha, bombardier. Au centre, là où se trouve la soute à bombe, se trouvait le sergent James C. Mooney. Et à l'arrière du fuselage, qui comprend les postes de tir et le matériel photographique, les sergents James Hedelson et George Henderson y étaient positionnés. Il n'y eut que 3 survivants, James Hedelson, George Henderson et James C. Mooney.
Hedelson fit un récit du crash à l'auteur Ben Bartnett pour son livre en 1987 « Carpet Baggers, American Secret War in Europe ». Et il va vous expliquer ce qui a été...
D'abord, je me suis cogné le flanc, je suis particulièrement tombé, puis j'ai été projeté en arrière vers la zone Joe Hall. C'est la trappe spécialement aménagée dans le plancher arrière, permettant de faire sauter en parachute. L'arrière de ma tête heurtant quelque chose dans l'avion. Le sergent Mooney est parti, il est apparemment tombé du Joe Hall. J'ai appris plus tard qu'il tenait les colis. Heureusement, il n'a pas été tué, même si le pauvre homme a dû souffrir énormément. Son dos était cassé, on me l'a dit plus tard. Le sergent Henderson sortit immédiatement de la section arrière. Nous nous sommes trouvés, Henderson et moi, et nous étions apparemment assez proches l'un de l'autre. Chacun de nous reprenait le chemin de l'avion. Notre avion pouvait être vu comme un phare, à des kilomètres à la ronde, comme un phare. Les munitions explosant et ce qu'il y avait dans les bonbonnes explosant aussi. Et le bruit qu'il faisait dans le silence de la nuit, avec tout ce qui explosait, attirait certainement beaucoup d'attention et beaucoup de monde. Les bonbonnes étaient éparpillées partout. Les Français ont travaillé très dur toute la nuit, très dur pour essayer de les récupérer. Le sergent Henderson et moi étions apparemment assez proches l'un de l'autre et revenant chacun vers l'avion, nous nous sommes retrouvés. Nous avons alors supposé que tout le monde avait été tué, sauf le sergent Mooney. Mooney, nous avons essayé de le retrouver, espérant qu'il allait bien, mais c'était la nuit, et dans la région montagneuse, et au bout d'un moment, nous avons abandonné. Nous souffrions non seulement physiquement, mais aussi émotionnellement, moi n'ayant que 20 ans à l'époque, 20 years. Nous pouvions entendre des bruits comme des moteurs de voiture ou de camion, du moins c'est ce que nous pensions. mais ma jambe gauche était blessée et s'aggravait car elle gonflait autour du genou. Nous n'avions aucune idée d'où nous étions, mais la première chose à laquelle nous avons pensé, bien évidemment, c'est que cela pourrait être les Allemands. Nous avons donc commencé à descendre les collines vers la vallée, sans rien connaître du territoire. Nous avons simplement décidé de nous éclipser dans la nuit du mieux que nous pouvions.
Et voilà, le dos cassé, Mounet a été aidé à sortir de la zone du crash par une Française du village. Mais il a rapidement été remis aux Allemands pour des soins d'urgence, à la vue de la gravité de ses blessures. Il survécut en tant que prisonnier de guerre dans un hôpital de Lyon, se remettant de ses blessures. Edelson et Ederson réussirent à échapper à l'ennemi en se cachant d'abord sous couverture, puis en étant accueillis par l'armée de la résistance française, le maquis, vivant avec eux pendant 3 mois et allant même une nuit aller faire sauter un pont ferroviaire. Début août, un Luken Hudson de la RAF les récupéra, sains et saufs, et le 27 août 1944, ils retournèrent à Harrington. Pour revenir au début de mon histoire, dans le groupe qui recherchait le lieu du crash se trouvait le neveu de Robert H. Redler. Après ce moment très chargé en émotions pour nous, ils ont poursuivi leur route avec une visite des plages du débarquement de Normandie.
Ok.
Micro-histoire, un montage de Mila Ketaeva, une émission enregistrée par Jean-Pierre Deroire. Présentée par Bruno Jacomi, Claude Janin et Bernard Charmillon.